France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
L'économiste Philippe Martin, passé par Bercy, aujourd'hui professeur d'économie à Sciences Po, il fait partie du trio d'économistes qui a récemment pointé l'indifférence d'Emmanuel Macron à la question sociale après l'avoir conseillé pendant sa campagne. Il vient également de co-signer une tribune franco-allemande pour alerter sur le bilan nuancé de la réforme de l'Union européenne. Et dans une note du CAE, le Conseil d'analyse économique qu'il préside, note écrite avec Sébastien Jean et André Sapir, il analyse les ressorts de la guerre commerciale à l'œuvre. Guerre commerciale, mobilisation générale. Bonjour à vous, Philippe Martin.
Bonjour.
L'agressivité américaine, est-ce qu'elle se justifie à vos yeux ?
Non, elle ne se justifie pas à la fois pour des raisons économiques, parce que, comme vous le savez, Trump est totalement focalisé sur les déficits et les excédents bilatéraux, par exemple, le déficit des États-Unis vis-à-vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis de l'Allemagne. Or, aujourd'hui, ces déficits, ils n'ont pas grand sens pour les économistes. Pourquoi ? Parce que le commerce international se structure sur ce qu'on appelle des chaînes de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, les produits ne sont pas produits dans un pays et ensuite exportés vers un autre. En fait, il y a une chaîne de production avec beaucoup d'étapes de production. Et donc, typiquement, par exemple, l'iPhone, c'est très connu. Une grande partie, l'iPhone est exporté de la Chine vers les États-Unis, mais en fait une grande partie de l'iPhone, il est produit à part en Chine, mais avec des importations de qui viennent du Japon, des États-Unis, d'Allemagne, etc., etc. Et donc regardez juste ces exportations de la Chine vers les États-Unis, ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, il y a un problème sur les excédents et les déficits ou les déséquilibres commerciaux en règle de manière plus globale. C'est-à-dire par exemple l'Allemagne a un excédent de sa balance commerciale de 8% du PIB. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, il se trompe de problème d'un point de vue économique. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, il faudrait déplacer les questions économiques d'un point du bilatéral commercial vers le multilatéral macroéconomique. Parce que là, en effet, il y a des gros risques. Mais il se trompe complètement d'un point de vue économique.
Après un G7 début juin où les 6 alliés présents en ont pris pour leur grade, aujourd'hui, dans le viseur de Donald Trump, c'est la Chine, Pékin tout particulièrement. Vous parliez de bilatéralisme. Écoutez.
Je respecte la Chine et je respecte le président Xi, mais ils nous démolissent. 507 milliards de dollars de déficit commercial l'an dernier. 507 milliards. Qui peut se permettre de perdre 507 milliards ?
Pourquoi a-t-il la Chine particulièrement dans le viseur ? Et surtout, est-ce qu'on doit rester témoin de ce spectacle qui est en train de se jouer entre Washington et Pékin, nous les Européens ? Ou est-ce que c'est peut-être l'occasion de sortir un peu du déni, d'ouvrir grand les yeux et de se dire que le tour d'après, ce sera peut-être nous ?
C'est pas le tour d'après, c'est déjà le cas, nous ne trompons pas. Il a aussi dans le viseur l'Union Européenne et en particulier l'Allemagne. Donc c'est vrai que hier il y a eu des annonces sur des tarifs sur 200 milliards d'importations américaines venant de Chine. Mais comme vous le savez, il a déjà mis un certain nombre de tarifs sur les exportations européennes dans le domaine de l'acier et de l'aluminium. Et à l'automne, c'est le secteur automobile en particulier qui est très important évidemment pour l'Allemagne, mais indirectement aussi pour la France, parce que nous produisons aussi des pièces détachées qui vont en Allemagne, qui sont ensuite réexportées sur en particulier les États-Unis. Donc non, l'Europe est aussi dans le viseur américain. Et donc la question essentielle qui va se jouer, c'est en effet l'unité européenne face à l'agressivité américaine. Jusqu'ici, ça a tenu.
Oui, d'ailleurs, hier, on a entendu France-Allemagne, par la voix du ministre Bruno Le Maire et par celle d'Angela Merkel, essayer de se positionner sur cette question d'une hausse des taxes américaines. Est-ce qu'il faut les craindre ? Comment faut-il réagir par rapport à ça ? Et sur l'importation d'automobiles américaines, est-ce qu'il faut baisser nos propres tarifs douaniers européens ?
Moi, je suis pas favorable à réagir à l'agressivité américaine par une offre de négociation bilatérale entre les États-Unis et l'Europe, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que quand on est face à une attaque du multilatéralisme, il faut pas réagir en récompensant celui qui a fait cette attaque.
C'est un signe de faiblesse.
Absolument, c'est un signe de faiblesse. Et en fait, je pense aussi que l'équilibre coopératif, un peu de libre-échange qu'on a eu jusqu'ici, puisque je rappelle, en fait, les tarifs sont extrêmement faibles, entre les grands pays industrialisés, sur les produits manufacturés, ils sont 2-3%, donc c'est extrêmement faible. Cet équilibre, il est fondé aussi sur le fait qu'il y a une menace de rétorsion si vous m'attaquez. Et donc, si aujourd'hui, on ne fait pas ces rétorsions qui doivent être fermes, mais proportionnée. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire de la surréaction. Et si on fait une offre de ce type aux Américains, je pense que on se tire une balle dans le pied, peut-être pas à court terme, mais au moins moyen et long terme. D'autre part, nous, ce qu'on dit dans cette note du Conseil d'analyse économique, c'est que on doit lier les sujets de commerce international par exemple avec le sujet environnemental. Mmh. Et donc, en particulier, nous, on considère que on ne doit pas signer un accord commercial avec un pays qui est sorti de l'accord de Paris. C'est le minimum. Et donc, de ce point de vue, moi, je ne suis pas favorable à l'ouverture de négociations avec les États-Unis sur un sujet bilatéral. En revanche, l'OMC fonctionne mal. Et on le sait, et les Américains se plaignent de ça. Et en partie, ils ont raison. En particulier, la question de la Chine dans l'OMC. L'OMC est aujourd'hui considère la Chine comme un pays en voie de développement. Et donc, ça signifie que la Chine n'a pas une obligation de réciprocité, en particulier sur les tarifs, vis-à-vis des pays industrialisés. Donc, ça, il y avait une alliance évidente, naturelle entre les États-Unis et l'Union européenne sur la question chinoise, des aides aux entreprises, des subventions que fait la Chine à ses entreprises et qui faussent la concurrence. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on peut discuter, mais pas seulement avec les Américains, bien entendu, aussi avec les Chinois. Et donc, c'est des négociations multilatérales.
Discuter, ajuster, Philippe Martin, mais est-ce qu'au-delà de tout ça, on n'est pas aussi dans un changement d'époque ? Quand on revient aux origines de l'OMC, quand on revient aux années 90 et à la philosophie qui a aussi suscité la mise en place de cette organisation, bah, d'abord, je vous propose d'écouter et on y revient.
C'est l'accord économique international le plus important depuis l'écroulement du communisme. Il commence à redessiner un monde où la guerre commerciale pourrait, faute de règles, remplacer la guerre froide.
Écoutez, je pense que cet accord va permettre à des pays en voie de développement de diversifier leurs relations. Et je crois que c'est très important de passer d'un stade bilatéral à un stade multilatéral.
Pour Gérard Longuet, qui signe au nom de la France, il va falloir mettre sur pied l'Organisation mondiale du commerce qui remplacera le GATT en 1995 et qui devra inclure cette fameuse clause sociale.
Ce ne sera plus la loi de la jungle, il y aura des arbitrages multilatéraux et c'est très important pour les salariés français, la clause sociale va être intégrée dans les éléments du commerce international.
Marrakech est une étape dans ce monde en perpétuelle transformation. Elle est importante, mais il y en aura d'autres.
Voilà, l'Uruguay qui n'a pas simplement prêté son nom à une équipe de football, mais aussi à un cycle de négociations commerciales, l'Uruguay Round. C'était en 94, l'acte qui est signé, c'est l'acte final de ces négociations. 123 États étaient représentés, membres du GATT, à ce moment-là. Voilà, c'est ces accords qui vont vraiment fonder l'Organisation mondiale du commerce, Philippe Martin. Est-ce qu'on n'est pas sorti de l'âge d'or du multilatéralisme?
Si, c'est pas, y a pas que Trump qui nous en fait sortir. Hein. On a signé énormément d'accords bilatéraux, régionaux, et l'Union européenne en signe énormément. Et une des raisons, c'est qu'en effet, après l'Uruguay Round, ça s'est arrêté. Le multilatéralisme s'est arrêté, c'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de signer d'autres accords multilatéraux et donc beaucoup de pays se sont tournés vers des accords bilatéraux. Par ailleurs, il y a clairement aussi un certain nombre de déceptions sur la mondialisation.
L'hyper-mondialisation, qui a quand même montré un peu ses limites.
Et clairement, là, la question de l'intégration et de la Chine dans l'OMC se pose, parce qu'en effet, elle s'est faite sur des critères, des règles qui ne fonctionnent plus de ce point de vue. Parce qu'en effet, on l'a vu, encore une fois, la Chine est traitée comme un pays en voie de développement, alors qu'elle ne l'est plus, clairement. Et donc, il y a un problème où l'OMC n'a pas réussi à suivre l'évolution du commerce mondial et l'industrialisation très rapide de la Chine, mais d'autres pays émergents. Par ailleurs, c'est vrai que quand même, on peut dire que l'intégration de la Chine et d'autres pays émergents a été très favorable pour ces pays. Ces pays ont vécu une très forte baisse de la pauvreté. Et donc, de ce point de vue, il y a eu une mondialisation heureuse pour un certain nombre de pays. Ça n'a pas été le cas, évidemment, pour un certain nombre d'autres pays, en particulier les pays industrialisés.
Donc pourquoi vous volez aujourd'hui au secours du multilatéralisme ?
Parce que je pense que il faut le réformer. C'est-à-dire, je pense qu'il faut des règles, en particulier sur la question chinoise, qui est une des questions clés. Mais parce que si on n'a pas l'OMC et ce qu'on appelle en particulier l'Office de règlement des différences, c'est-à-dire le fait que quand on est en désaccord entre pays sur des questions commerciales, il y a quand même une règle internationale avec des juges qui vont dire qui a tort et qui a raison. Mais dans ce cas-là, en effet, c'est la loi de la jungle. Et même si c'est très, très, très imparfait, l'OMC, c'est quand même une organisation dont les règles, entre guillemets, protègent les petits pays. Parce qu'il y a une grosse asymétrie dans le commerce international et dans les négociations commerciales entre les petits et les grands pays. Ce qu'on montre dans cette note, et c'est assez intuitif, c'est que les grands pays gagnent assez peu finalement à des accords commerciaux, alors que les petits pays y gagnent beaucoup. Pourquoi ? Parce que les petits pays ont accès à un grand marché, donc c'est très intéressant pour eux, et c'est pas vrai dans le sens inverse. Et donc si on est dans un système où il n'y a que des accords bilatéraux, régionaux, évidemment ça signifie que la négociation va être extrêmement déséquilibré en faveur des grands pays et contre les petits pays. C'est déjà un peu ce qu'on voit hein, dans un certain nombre d'accords, mais il est clair que l'OMC protège en partie, de manière très imparfaite, plutôt les petits pays. C'est l'enjeu du multilatéralisme.
C'est ce qui est intéressant, effectivement, dans cette note, c'est que vous semblez dire et montrer que les effets d'une guerre commerciale ne seraient pas que bilatéraux, que tout le monde en pâtirait, les grands et les petits. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant en termes de stratégie, puisqu'on parle de guerre? On va peut-être sortir les états-majors et vous en faites partie. Vous donnerez votre avis, vous conseillerez le gouvernement et l'Élysée sur ces questions.
C'est mon rôle, hein, le rôle du Conseil d'analyse économique.
Mais est-ce que vous serez suivi? Parce que vous transmettez des notes, est-ce que a priori...
C'est pas moi qui décide, d'accord. En effet. Si c'est la question que vous me posez, c'est pas moi qui décide. Non, mais on fait en effet des notes. C'est des notes de ce type, notes publiques. Puis il y a des notes plus confidentielles. Mais c'est le rôle du Conseil d'analyse économique de donner un éclairage, puisque ce sont des économistes académiques hein, qui sont membres du Conseil d'analyse économique, donner un éclairage un peu différent, par exemple, de celui de l'administration.
Bon.
Et donc, nous, notre conseil, il y a une sorte de plan A et plan B. Le plan A, c'est sauver le multilatéralisme, on en a parlé, mais je crains que de plus en plus ce soit difficile hein, face à l'agressivité de Trump. Il n'est pas intéressé par des discussions multilatérales, il n'est pas intéressé par une réforme de l'OMC, et donc en effet il faut un plan B. Le plan B, c'est en partie des rétorsions, mais qui doivent être proportionnées.
Mais c'est des alliances aussi que vous plaidez.
Et ce sont des alliances.
Un club de pays amis qui s'accorderait.
En effet, c'est coordonner ces rétorsions avec des pays amis du multilatéralisme. Pensez au Japon, au Canada, l'Australie, etc. Donc je pense qu'il y a une meilleure coordination à avoir. C'est aussi une stratégie d'isolement hein, des États-Unis, que ce soit à l'OMC, mais aussi, on le dit, par une politique peut-être d'accords commerciaux. Lorsqu'on fait un accord commercial avec le Canada, ça va être favorable pour le Canada et pour l'Union européenne, mais c'est une diversion de commerce qui est défavorable aux États-Unis. Et donc je pense que il y a une stratégie de contournement et d'isolement des États-Unis qui peut se faire, tout en faisant une offre de négociation aux États-Unis multilatérale sur l'OMC. Mais la stratégie, ça doit être en effet d'être assez ferme vis-à-vis des États-Unis. Je pense que ce que fait la Commission européenne de cibler des produits qui sont extrêmement coûteux d'un point de vue politique pour Trump, c'est la bonne stratégie.
Un plan B, si l'offre est rejetée par les États-Unis, créer un club de pays amis qui s'accorderait pour contourner le blocage américain. Voilà ce que propose cette note du Conseil d'analyse économique que vous présidez, Philippe Martin. Est-ce qu'on peut dire simplement et clairement, les États-Unis veulent du protectionnisme, vous plaidez pour l'isolationnisme, pour isoler les États-Unis de cette scène commerciale internationale?
Alors non,
s'ils ne veulent pas discuter.
Pas l'isolationnisme, mais très clairement, il faut que cette stratégie d'agression américaine, elle soit coûteuse d'un point de vue politique. Moi, je ne crois pas que Trump a une vraie stratégie économique pour les États-Unis avec cette politique commerciale. Il a une stratégie très politique sur certains secteurs et puis certains États américains. Et donc, de ce point de vue, ce qu'il faut faire, en effet, c'est montrer un certain nombre d'exportateurs américains qui vont être privés du marché européen, mais aussi chinois, canadien, du fait de nos rétorsions, que cette politique d'agression est extrêmement coûteuse. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'à un moment, Trump va considérer que le coût politique de cette politique agressive est trop important? En tout cas, il faut l'essayer, parce que aujourd'hui, c'est la seule manière, en effet, de réagir face à cette agression américaine. Mais il faut pas se tromper, il faut pas penser que, supposons que dans 2 ans, Trump n'est pas réélu, tout ira mieux. Non, je pense qu'il y a une lame de fond aux États-Unis, hein, de protectionnisme, d'isolationnisme, et que si ces tarifs sont mis en place, ce sera assez difficile de revenir en arrière, même si on a un président démocrate ou républicain plus standard.
Et surtout, comme pour l'OTAN, on peut se dire que la situation actuelle, au-delà même de la figure de Donald Trump, au-delà même d'une possible réélection, a montré les failles, les faiblesses structurelles aussi du système qui était mis en place, ce que vous évoquiez tout à l'heure en disant l'OMC, il faudrait la réformer, pas forcément annuler, en sortir, détruire ce qui a été fait, mais en tout cas réformer. En vous faisant la voix de l'Union européenne, la voix, l'étendard un peu de ce multilatéralisme, Philippe Martin, est-ce que vous ne dites pas aussi qu'il y a pour nous, Français, Européens, une nouvelle place à prendre et qu'il faudrait profiter de ce désengagement américain pour s'imposer un peu plus sur cette scène commerciale ?
Alors oui, je pense qu'on peut apparaître en effet comme un pôle de stabilité. Une des choses qui est très marquante dans la politique américaine actuelle, c'est que c'est un énorme choc d'imprévisibilité. Trump dit quelque chose, il tweet une autre chose le lendemain. Et ça, pour l'investissement, pour la production, pour les exportations, c'est une mauvaise chose. L'Union européenne, peut-être certainement, a une carte à jouer, qui est d'apparaître comme l'acteur économique qui, lui, est prévisible, qui joue en fonction des règles internationales, qui ne les viole pas, qui ne change pas d'avis tous les jours sur chaque sujet. Et je pense qu'en termes d'attractivité, en termes d'investissement, je pense que c'est une stratégie gagnante. En tout cas, c'est la stratégie qu'on devrait jouer face aux États-Unis. Par ailleurs, on parlait tout à l'heure d'isoler un peu les États-Unis. Je pense qu'en effet, la signature d'accords commerciaux, nous ce qu'on dit c'est que c'est une police d'assurance en cas de guerre commerciale pour l'Union européenne. On devrait faire ces accords commerciaux, signer de nouveaux accords commerciaux, mais ils vont être très longs parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous préconisons le fait qu'on doit les lier à des sujets environnementaux et puis aussi de fiscalité.
Dans le discours, en tout cas, l'apaisement, c'est aussi la carte jouée en ce moment par la Chine.
Personne ne sort vainqueur d'une guerre commerciale. Cela ne profite à personne et minera le processus multilatéral de libre-échange. Si un pays insiste pour mener une guerre commerciale, cela nuira aux autres pays et à lui-même.
On a des affaires à faire avec la Chine, nous les Européens. Il est là, le nouvel allié vers qui se tourner.
Ouais, ce qui est clair, c'est que si il y a des tarifs extrêmement élevés entre les États-Unis et l'Union européenne, il va y avoir une diversion des flux commerciaux, en effet, et plutôt favorable au couple Chine-Union européenne. On a certainement une alliance avec la Chine sur cette question du multilatéralisme, sauf que on a quand même beaucoup de problèmes hein, aussi avec la Chine. Donc l'alliance naturelle, c'était plutôt États-Unis-Europe. Elle est en train sur le plan commercial, évidemment, d'avoir du plomb dans l'aile. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une alliance très claire entre l'Union européenne et la Chine. Je ne suis pas favorable pour le moment, hein, par exemple, à ouvrir des négociations commerciales avec la Chine. Mais en revanche, à l'OMC, on peut avancer sur un certain nombre de sujets avec la Chine. Mais encore une fois, je pense qu'on a du point de vue des Européens, et on le dit d'ailleurs dans la note, ce qui protège l'Union européenne et les pays européens de la guerre commerciale en partie seulement des États-Unis, c'est le grand marché unique. Hein. Donc c'est le marché unique, c'est le fait qu'on a un grand marché. Et donc ce qu'on voit, c'est que l'Union européenne, certes, pâtirait hein, d'une guerre commerciale avec les États-Unis, potentiellement même avec la Chine, de manière assez forte. Hein. Nous on dit en gros 3 points de PIB de perte de manière permanente, hein, c'est à peu près 1100 euros par personne de manière permanente de coût d'une guerre commerciale. Mais en partie, on est quand même protégé par notre grand marché européen. Et donc c'est ça, à mon avis, un des points essentiels. C'est un, d'essayer au maximum de sauver le multilatéralisme, mais aussi de sauver l'unité européenne et l'intégrité du marché unique européen.
Et le marché européen nous protège de quoi, en fait ? On peut espérer, en cas de déclaration de guerre commerciale, parce que là, on est plutôt à l'état de menace, que les emplois, que la casse sociale ne serait pas trop importante ?
Alors, on est allé au-delà de la menace, hein, puisqu'il y a un certain nombre de tarifs, et puis on a, certainement à l'automne, on aura d'autres. Mais oui, la France, par exemple, hein, plus de la moitié de nos nos exportations, c'est vers le reste de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on est dépendant du commerce international hors Union européenne, mais notre gros marché, ce sont les pays voisins, les pays européens, et donc c'est extrêmement important de garder évidemment ces marchés. Et il y a un accord commercial évidemment qui va être extrêmement important, c'est celui de la Grande-Bretagne. Donc la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne, mais on va certainement signer avec un accord avec eux. Et de ce point de vue, c'est extrêmement important d'avoir un accord qui soit très équilibré entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne.
L'économiste Philippe Martin, président du Conseil d'analyse économique, est notre invité ce matin jusqu'à 8h30.